Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Bonjour à tous. Vous connaissez sans doute Jacques Séguéla, le publicitaire célèbre pour avoir fait la campagne de François Mitterrand en 1981, la fameuse Force tranquille. Eh bien, c'est un petit bout de son histoire que je vais vous raconter aujourd'hui devant lui, puisqu'il est là. Bonjour Jacques Séguéla.
Bonjour, quel bonheur d'être là.
En 1958, vous aviez alors 25 ans, et avec l'un de vos amis, Jean-Claude Baudeau, vous vous êtes lancé dans un tour du monde en deux chevaux. Ça vous a pris 13 mois. Vous avez parcouru 100 000 km. Vous avez vécu des tas d'aventures absolument incroyables. Et en rentrant, vous avez écrit un livre qui, en 1960, a été un best-seller. Nos auditeurs s'en souviennent peut-être. « La Terre en rond », paru à l'époque aux éditions Ouest France. Et réédité d'ailleurs 30 ans plus tard, en 1990. C'est un livre qui a donné des ailes et le goût de l'aventure à toute une génération. Et que je vais revisiter maintenant. C'est une histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Je sais ce que vous allez me dire. C'est parce que c'est Séguéla qui nous raconte cette histoire. Le communicant de Mitterrand, la force tranquille. Il y en a eu d'autres qui ont fait le tour du monde, à pied, à cheval ou en voiture. On n'en a pas fait toute une histoire. Il fait ça parce que c'est Séguéla, copain, coquin. Eh bien, pas du tout. Je vous raconte cette histoire parce que l'air de rien, faire le tour du monde en Deutsch, en 1958, c'était un petit exploit. À l'époque, le monde n'était pas grand ouvert comme aujourd'hui. Faire le tour du monde, c'était partir sans savoir où on allait. Du tout. C'était une petite folie. Et je crois bien que ça a changé leur vie, à tous les deux. Alors je vous embarque. Prenez la machine à remonter le temps, octobre 1958. Vous y êtes ? À Perpignan. C'est là qu'habitent Jacques Séguéla, et son pote de toujours Jean-Claude. Jean-Claude Baudeau, 25 ans tous les deux. Jacques est en dernière année de pharmacie et Jean-Claude termine ses études de droit. Ils sont au bord d'entrer dans la vie active. Et ils se sont mis en tête de faire le tour du monde en deux chevaux.
En deux chevaux? Mais tu vas avoir ton doctorat cette année? Qu'est-ce qui te prend? Partir faire le tour du monde maintenant? Eh ben oui, maintenant. Pour voir! Pour changer, pour prendre l'air d'ailleurs, pour connaître des gens qui vivent là où on ne vit pas. Mais la France, ça te suffit pas, la France. T'as tout à découvrir en France. Pff, la France, si tu réfléchis bien, Bordeaux ressemble à Lyon. Dupont et Durand parlent toujours des mêmes sujets, dans la même langue. C'est rasoir. Tu sais quoi, moi, les blés de la Beauce et les vignes de l'Hérault, je trouve ça trop plat. C'est trop plat!
Le jeune Séguéla a réussi à embrouiller la faculté. Il profitera de ce voyage pour étudier les plantes médicinales et il en fera le sujet de sa thèse. Ça rassure les parents. Mais il est probable qu'il passera plus de temps à bricoler son carbu qu'à jouer les herboristes. Mais passons. Ah, un détail qui va vous amuser. Avant de partir, ils se font enlever l'appendice, tous les deux, pour ne pas se retrouver avec une appendicite à Babelwed. Et la deux chevaux, alors? Pourquoi elle? Oh, c'est simple, hein. La Deutsch, ça consomme très peu d'huile et peu d'essence. C'est une voiture rustique et facile à réparer, avec un nombre limité de pièces détachées. Et surtout sur une Deutsch, il n'y a pas de radiateur. C'est une voiture à refroidissement à air. Et disons que ça fait un problème de moins. Et bien évidemment, le publicitaire sommeillant déjà chez Séguéla, ils ont essayé de s'en faire donner une, par Citroën. Un type qu'est Javel leur a montré une liste longue comme le bras d'aventuriers. Ils n'étaient pas les seuls à avoir eu cette idée. Et donc ils ont dû se la payer eux-mêmes. Une deux chevaux 425 cm3 de type PO, qu'ils ont aménagé. Double cardan, deux réservoirs supplémentaires, des phares anti-brouillard, un poste de radio, un thermomètre, un altimètre et même une prise pour le rasoir électrique. Un vrai petit vaisseau. Alors, par où vont-ils passer? Ils ont prévu un trajet en zigzag. De Paris, ils vont descendre tout droit jusqu'en Afrique du Sud. Et puis là, ils vont traverser en bateau jusqu'au Brésil. Et après, ils remontent tout le continent américain vers le nord. Et ensuite, ils s'attaquent à l'Orient, l'Extrême-Orient, le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Et après, ils rentrent. Ça doit faire dans les 100 000 bornes. Un an de voyage minimum. En deux chevaux. C'est gonflé. Jacques et Jean-Claude partent de Paris du salon de l'auto le 9 octobre 1958. Quatre jours plus tard, ils embarquent à Port-Vendres, près de chez eux, dans un bateau pour l'Algérie qui à l'époque est encore française. Et ils débarquent à Alger, où ils prennent la route du sud vers Tamanrasset. Au début, elle est goudronnée, et puis très vite, c'est le sable. Ils viennent d'atteindre le Sahara. Ils voulaient voir autre chose. Ils sont servis. Nous nous sommes tus. Comment voûter par ce paysage immuable? Lorsque vient le crépuscule, l'immensité des sables est une gigantesque fresque abstraite que nous admirons sans la comprendre. Le Sahara signe aussi leur première galère, leurs premiers ensablements, leurs premiers mirages et leur première tempête de sable. Elle arrive d'un coup. Alors ils s'arrêtent, ils se calfeutrent dans la voiture et ils attendent. Et la tempête dure 2 heures. Et d'un coup, elle retombe. La douche est complètement ensevelie. Allez les gars, il n'y a plus qu'à creuser pour la sortir de là. Je vous rassure, ils vont en voir d'autres. Et à Ingezam, encore plus au sud, il tombe sur un Touareg seul, qui vient de passer 6 mois à garder un poste militaire et qui rentre chez lui, dans sa tribu, à quelques centaines de kilomètres au sud. Physiquement, le type est absolument incroyable. Il fait plus de 2 mètres, au moins 2 mètres 10. Il a un turban bleu sur la tête, une grande djellaba bleue et un couteau attaché à la ceinture. Et le visage, dur, comme taillé dans du bois. Vous savez comment il s'appelle, le Touareg? Il s'appelle Albert. Le type s'appelle Albert. Et ils lui font une petite place à l'arrière de la douche. Et les voilà repartis avec Albert plié en deux. Albert qui baragouine 3 mots de français, mais qui connaît le désert. Et qui s'avère très coquet. De temps en temps, il sort un petit miroir comme ça. Il se regarde, il se recoiffe et il dit « Ok ?» L'air de dire « Est-ce que ça va comme ça ?» 400 kilomètres plus tard, les voilà dans sa tribu, au Niger. Et Albert les invite pour un méchoui de gazelle, fier de montrer aux hommes de sa tribu sa dernière trouvaille, 2 Français et leur douche. Et là, Jacques et Jean-Claude décident de rester quelques jours. Et au soir du 3e jour, ils sont réveillés en pleine nuit par des bruits métalliques. Ils passent une tête incroyable. 2 Touaregs sont en train de se battre en duel, avec des épées énormes, des takubas. Et à un moment, l'un d'eux donne un coup puissant et son takuba s'abat sur le poignet de l'autre, tranché net. Le poignet pend par un lambeau de chair. Nom de Dieu. Et c'est pas fini. Le type avec une seule main continue de se battre et il parvient à toucher son adversaire à l'épaule et là, les deux s'écroulent sur le sol. Tu crois qu'ils sont morts? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Jacques et Jean-Claude décident d'aller chercher un médecin en 2 chevaux dans un village voisin.
Docteur! Docteur, faut venir vite. Il y a 2 Touaregs qui se sont battus à l'épée. Il y en a un qui a le poignet tranché et l'autre qui a pris un coup sur l'épaule. Bon, vous inquiétez pas, va. Ça arrive. Laissez-moi donc dormir.
Eh bien, vous n'allez pas le croire. Ils recroisent les 2 Touaregs 2 jours après. Ils sont en pleine forme. Leurs blessures sont couvertes d'un cataplasme, une pâte d'herbe broyée, aucune infection. Le moignon de celui qui s'est fait trancher la main est déjà en train de cicatriser. Et le plus incroyable, c'est que tous les deux sont en route pour aller se constituer prisonniers. Car en France, les duels sont interdits. Et à cette époque, le Niger, bah c'est la France. Au bout de 6 jours, Jacques et Jean-Claude reprennent la route. Ils passent le Cameroun, le Tchad, et fin novembre, les voilà au Congo belge. Et là, ils s'enfoncent dans la forêt équatoriale. Et au milieu de cette forêt, ils tombent sur un panneau. Attention, à 50 km, village pygmée. Des pygmées. Il faut s'imaginer ce que représentent les pygmées dans l'imaginaire de deux jeunes Français en 1958. Des demi-sauvages. Quelque chose entre l'homme et le singe. Et donc, ils recapotent la deux chevaux et ils abattent les vitres.
Tu penses qu'ils sont dangereux, ces pygmées ?
Bah, j'en sais rien. Mais prends ton fusil, va.
Au cas où.
Et ils avancent la peur au ventre. Et là, nouveau panneau. Attention, à 25 km, village pygmée. La tension monte. Et les voilà qui arrivent au village, où ils pensent tomber sur des indigènes dangereux et farouches. Ils aperçoivent de petits bonhommes qui entrent et sortent de cases minuscules. Et puis, un nouvel écriteau, beaucoup moins exotique. Parking. Un pygmée s'approche de la voiture. Un grand sourire édenté, et il leur explique le programme.
Pour prendre photo, 1000 francs. Et pour danse rituelle, 5000. Faut payer d'abord.
L'aventure. Un attrape-touriste, plutôt. L'avantage, c'est qu'il y a un hôtel tenu par un Belge qui sert un menu peu exotique. Thon à la gelée de citron, haricots verts en salade, côte de porc panée macédoine de légumes et fraises des bois à la crème fraîche. Véridique. Au beau milieu de la forêt du Congo, pile à l'équateur, en 1958. Une semaine plus tard, les voilà en Union sud-africaine, à Johannesburg. Ils installent leur campement dans les faubourgs et au réveil, très mauvaise surprise. Leurs deux chevaux a été pillé, la capote découpée, les valises éventrées. Les garçons se retrouvent en pyjama. Ils n'ont plus que ça. Plus d'argent, plus de vêtements, plus de matériel, plus rien. Juste leur lit de camp et leur pyjama. Et sur le plancher trône un guide touristique qu'on leur a donné quand ils ont passé la frontière. L'hospitalité sud-africaine est légendaire. Partout, vous trouverez le meilleur accueil. Rassurez-vous, au consulat de France, ils récupèrent de l'argent et leurs papiers. Et ils repartent direction le Cap, où ils vont prendre le bateau pour Rio de Janeiro. Et fin décembre, ils sont prêts à embarquer. En Afrique, ils ont traversé 12 pays, parcouru 16 000 kilomètres. La Deutsche a tenu le coup. Maintenant, place à l'Amérique. Et le 7 janvier 1959, après 10 jours de mer, Jacques et Jean-Claude voient surgir de la brume le pain de sucre et les immenses buildings de Rio de Janeiro. Et ils ne vont pas traîner à Rio. Ils veulent aller tout de suite à Sao Paulo. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que pendant la traversée depuis l'Afrique, sur le bateau, ils ont, comment dire, sympathisé avec deux jeunes filles japonaises qui habitent justement à Sao Paulo. Elles leur ont laissé une petite carte de visite avec une adresse. Ils y vont tout droit. Et dans le quartier japonais de Sao Paulo, ils tombent sur une blanchisserie où travaille toute une armée de Japonais, 25 au moins, parmi lesquels un petit monsieur, âgé. Jacques lui tend la carte de visite. Il affiche un large sourire.
Naiko ! Kazuko !
Et là, surgissent les deux japonaises du bateau. Heureuses comme tout, ce sont les filles du monsieur. Le soir, ils ont le droit d'inviter les deux jeunes femmes au restaurant. Et le père les invite à dormir dans la cave de la blanchisserie. Et au petit matin, ils vont pour dire au revoir au père et aux filles. Mais le petit vieux leur fait non de la main.
Naiko, why for you, you is man. Kazuko, why for you, hein? You, husband.
Le père veut les marier à ses filles.
Sorry, it's not possible.
Et là, ils vont vers leurs deux chevaux pour se carapater. Et là, ce sont les frères qui leur disent. Non, vous ne pouvez pas partir. Sympathique, hein? Ils sont taillés comme des culturistes, des épaules de déménageurs bretons. Écoute, on va peut-être pas les contrarier, hein? On partira cette nuit. Alors la nuit, quand tout le monde dort, à pas de loup, ils se dirigent vers leurs deux chevaux pour se faire la malle. Mais vous n'allez pas le croire, la deux chevaux est attachée par le pare-choc à la grille du balcon, avec une chaîne et un cadenas énorme. Impossible de partir. Ils sont prisonniers. Et pendant 5 jours, vous entendez 5 jours, ils essayent de convaincre le père de les libérer. Et à la fin, ils n'ont pas le choix. En pleine nuit, ils démontent le pare-choc et ils s'enfuient. Et l'aventure continue en célibataire. Avant de remonter le continent américain, Jacques et Jean-Claude font un crochet par le sud. Ils passent par l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, le Mexique. Et au mois de juillet, ils franchissent la frontière avec les États-Unis. Et à Los Angeles, ils embarquent pour la suite de leur périple. Direction l'Asie, direction le Japon. Mais ils n'ont plus un copec. Ils sont raides comme des lacets. $10 à tout casser pour deux. Et donc, ils traversent le Pacifique en classe économique, dans une sorte de dortoir où s'entassent au moins 50 personnes, des Japonais, des Chinois, des Portoricains, des Philippins, et ça joue au poker. Et là, nos deux amis se disent, voilà une belle occasion de se refaire. Alors, pendant les 17 jours de traversée, Jacques fait équipe avec un Portoricain, Felipe. Et ils jouent au poker 24 heures sur 24. Et ils gagnent, et ils perdent. Et à la fin, quand ils arrivent au Japon, les $10 sont devenus $100. Ça ne règle pas tous leurs problèmes, mais c'est un début. Et de toute façon, à Tokyo, ils ont l'intention de travailler pour se reconstituer un petit pécule avant de poursuivre la route. Mais bien entendu, ils ne parlent pas un mot de japonais. Alors ils trouvent un emploi muet, mannequin vivant dans la vitrine d'un grand magasin. Jacques est habillé à l'européenne et Jean-Claude en kimono. Et ils font une sorte de chorégraphie avec des gestes saccadés, un peu comme des automates. Et des dizaines de japonais s'agglutinent devant la vitrine. Et pour compléter cette mise en scène, ils ont garé la deux chevaux juste en face. Le patron explose son chiffre d'affaires. Il multiplie leur salaire par 4. Ils restent comme ça un mois au Japon. Et puis ils reprennent la route. Chine, Vietnam, Singapour, Malaisie. Et mi-septembre, ils sont en Thaïlande, dans la jungle, où il fait une chaleur humide à crever. La deux chevaux avale les kilomètres. Et puis à un moment, Jacques qui est au volant pile. Un tronc d'arbre leur barre le passage. Ils descendent, et à ce moment-là, surgissent 8 hommes, avec de grosses barbes noires et des trognes patibulaires. Et surtout, ils ont des fusils et des machettes. Ce sont des pirates venus de Birmanie. L'un d'eux enfonce son fusil dans les côtes de Jacques, et il leur retire leurs chaussures pour ne pas qu'ils puissent s'enfuir. Il dit à Jacques de se mettre au volant de la douche, et à Jean-Claude d'ouvrir la marche à pied, pieds nus. Et ça dure comme ça des heures. Et Jean-Claude a les pieds en sang. Il n'en peut plus. Alors, à un moment, il s'effondre. Alors les pirates échangent les places. Maintenant, c'est Jean-Claude qui conduit. Et c'est Jacques qui ouvre la marche, pieds nus. Et ça dure encore des heures. Au bout d'un moment, Jacques tente le tout pour le tout. Il saute sur l'un des pirates. Il veut lui arracher son fusil. Et là, il prend un gros coup de crosse dans la nuque. Quand il reprend ses esprits, quelques minutes plus tard, les pirates sont partis et ils sont ligotés, tous les deux, à un arbre, les jambes recouvertes de fourmis. Et petit à petit, avec l'humidité, les liens se desserrent, ils parviennent à se libérer. Et ils retrouvent la douche à 100 mètres plus loin, complètement vide. Ils ont frôlé la catastrophe, mais n'allez pas croire que ça les fasse douter. L'aventure continue vers le Cambodge, le Laos, la Malaisie, l'Inde et le Pakistan. Et là, il s'engage dans un désert. Le désert du Beloutchistan, 1500 km de piste. Une chaleur écrasante. Il crève une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, ils doivent réparer en plein cagnard. Et du coup, ils perdent du temps. Et ils commencent à manquer d'eau. Ils sont épuisés. La bouche sèche, les paupières lourdes. Et pour ne pas s'endormir, Jacques déclame des strophes du Cid.
Que je sens de rude combat contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine.
Et là, à nouveau, ils crèvent. Sauf qu'ils n'ont plus de chambre à air de secours. Alors vous savez ce qu'ils font ? Au lieu de mettre de l'air dans le pneu, ils mettent du sable. Du sable, un bricolage qui ne tient que 20 km. Et ils font les 60 derniers kilomètres sur les jambes, jusqu'à la frontière iranienne. Ils n'ont presque rien bu pendant des heures. Alors quand ils passent la frontière à 4 heures du matin, ils se ruent sur le garde-frontière pour lui demander un verre d'eau, une renaissance. Et les voilà donc en Iran, face à un nouveau désert, le grand désert salé. Et là, ils embarquent des thermos entiers de thé brûlant. Et pendant 400 kilomètres, pas une crevaison, rien. Ça roule ma poule. Et puis à un poste militaire, un soldat leur permet de faire le plein d'eau. Et il leur donne un petit conseil.
You have to take salt. A lot of salt. Prenez du sel, hein. Beaucoup de sel. Et aussi une bonne corde. Comme ça, si vous vous perdez. Mais vous repérez un chameau sauvage, ils adorent le sel. Vous le capturez, vous montez sur son dos et vous vous laissez conduire jusqu'au point d'eau. Il y va tous les deux, trois jours.
Il s'engage sur la piste, mais petit à petit, la poussière s'épaissit. Le vent se lève. Et à un moment, il ne voit plus rien. Plus rien. Et donc, il ne voit plus les balises qui limitent la piste. Et ils se perdent. Et pendant des heures et des heures, ils cherchent leur chemin. Ils n'ont plus que leur boussole. Et une fois de plus, ils commencent à manquer d'eau. Et surtout, à un moment, Jean-Claude lâche le volant. Il se frotte les yeux avec les poings.
Merde, Jacques ! Putain, je vois plus rien ! Tout est noir !
Jean-Claude est en train de faire une crise d'ophtalmie des sables. Alors il se réfugie à l'arrière de la Deuche dans une sorte de torpeur. À partir de maintenant, c'est sur Jacques que tout repose. Et il n'y a presque plus d'essence. Le seul moyen de s'en tirer, c'est de croiser quelqu'un. Et en attendant, ils économisent tout, même leur salive. Ils ne parlent plus, ils ne fument plus. Ils sont à bout. Et la nuit passe. Et au petit matin, Jacques a un espoir, il repère une balise. Mais il est tellement naze qu'il s'affaisse sur le volant. Et qu'il s'endort. Ils sont réveillés quelques heures plus tard par un camion. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Le chauffeur leur sert à boire, il leur donne un morceau de pastèque. Et là encore, c'est la renaissance. Le périple touche à sa fin. La Bulgarie, la Yougoslavie, l'Italie et la France. Le 11 novembre 1959, 13 mois après leur départ, ils passent la frontière française. En rentrant, ils écrivent un livre pour raconter ce tour du monde, La Terre en rond, qui paraît en 1960, et qui est un énorme best-seller. Et pour Jacques Séguéla, eh bien c'est le début de la notoriété. Il ne sera jamais pharmacien.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.